Vous écoutez, on lit pour vous.
La Zamboni de la réconciliation. Un texte de Philippe Mercure, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse. Essipit. Que s'est-il passé entre la communauté Innu d'Essipit et le village des Escoumins pour que les rancœurs d'hier cessent d'en alimenter de nouvelles dans cette spirale si souvent observée? Mise en situation. Guerre du saumon, chicane territoriale, manifestation, blocage de route. Ça a longtemps brassé entre le village des Escoumins et la nation Innu d'Essipit sur la haute côte nord. Aujourd'hui, pourtant, les deux communautés multiplient les partenariats. Et l'harmonie est visible, jusque sur la Zamboni du coin. Le signe ne ment pas lorsque je pose la question à Martin Dufour, chef d'Essipit. Il envoie une fleur à son vis-à-vis du village voisin. Il y a eu la venue d'un nouveau maire aux Escoumins, M. Desrosiers, répond-il. Il a fait campagne en disant qu'il allait s'entendre avec nous autres. Et ça a tout changé, sérieusement. On a réussi à régler tous nos litiges. Martin, c'est un gars réceptif, réplique André Desrosiers, maire des Escoumins depuis 2013. Il parle de moi, mais il faut aussi parler de lui. Il a montré énormément d'ouverture et maintenant, on a du plaisir à travailler ensemble. En visitant les lieux, on comprend à quel point cette bonne entente doit faire du bien. Essipit est une minuscule enclave de 0,8 km², à peine plus grande que le parc Maisonneuve à Montréal, entourée par le village des Escoumins. Les habitants des deux communautés partagent plusieurs infrastructures, dont le même réseau d'égouts et d'eau potable. Difficile ici de faire semblant que l'autre n'existe pas. Il faut aussi avouer qu'il est drôlement dommage de se chicaner dans un tel coin de paradis. Le chef, Martin Dufour, m'a accordé une partie de l'entrevue sur la spectaculaire côte rocheuse d'Essipit. Devant, deux baleines et de nombreux marsouins multipliaient les cascades sous les yeux ébahis des touristes. Ce paysage de carte postale a pourtant longtemps servi de décor à des intrigues peu réjouissantes. Au début des années 1980, ce qu'on appelle encore ici la guerre du saumon fait rage. Le filet de pêche que tendent les Innus dans la rivière des Escoumins attise les tensions avec le gouvernement et avec les Blancs locaux, une situation qui se reproduit ailleurs sur la côte nord et en Gaspésie. Les Innus d'Essipit bloquent l'accès au traversier qui assure la liaison vers Trois-Pistoles de l'autre côté du fleuve. À la même époque, un simple totem érigé par Essipit sur le bord de la route 138 déclenche une bataille judiciaire qui perdure pendant des années. Les Escoumins finissent par obtenir le droit de le faire retirer parce qu'ils ne respectent pas le règlement sur l'affichage. La volonté d'Essipit d'élargir son territoire provoque aussi des flammèches. En 2008, un comité de survie des Escoumins est formé en réaction aux revendications territoriales Innus. Des affiches apparaissent dans le village et des manifestations sont organisées. Il y avait du racisme, c'est clair, net et précis, dit Martin Dufour, grand chef d'Essipit. Tant André Desrosiers que Martin Dufour ont fait de la politique à cette époque. Ils ont tous deux été conseillers avant d'être élus à la tête de leur communauté. Il y avait toujours des tensions. La confiance n'était pas là, raconte le chef Martin Dufour. Les relations étaient tendues. Les rencontres qu'on avait, c'était pénible. Se remémore aussi André Desrosiers. Ce dernier finit par se présenter à la mairie en promettant un changement d'approche. J'ai dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, avec une guerre en plein cœur du village, raconte M. Desrosiers. Il y avait des familles prises là-dedans. Il y a des Autochtones mariés avec des Blancs. J'ai dit, on va arrêter de les voir comme des ennemis et on va les voir comme des alliés. On va se mettre avec eux pour être capable d'aller chercher plus pour notre population. Il commence par régler le dossier de l'eau. Les Escoumins fournissent l'eau potable à Essipit, mais personne ne s'entend à l'époque sur combien cela devrait coûter. La situation est compliquée par le fait que les conduits servent les Escoumins, traversent ensuite Essipit pour revenir aux Escoumins. Comment savoir qui consomme quoi? Les soldes en souffrance s'accumulent et le diable est aux vaches. Vous écoutez La Zamboni de la réconciliation, un texte de Philippe Mercure, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse. Deux semaines après l'élection de M. Desrosiers, une méthode est trouvée qui fait l'affaire de tous. C'est le déclic. Après l'eau, on a réglé les égouts, puis les services d'incendie, raconte M. Desrosiers. Aux yeux de Martin Dufour, un autre dossier symbolise encore mieux la réconciliation entre les deux communautés, celui de la Zamboni. En 2014, Essipit accepte de payer la moitié de la nouvelle surfaceuse de l'aréna située sur le territoire des Escoumins. Je pense que c'est là que les gens se sont dit « OK, les tensions, c'est fini, on passe à autre chose. » Quand la Zamboni passait, tout le monde voyait les deux logos un à côté de l'autre. Ça envoyait tout un signal, résume Martin Dufour. Aujourd'hui, les Escoumins et Essipit travaillent ensemble à la rénovation de l'aréna et planchent sur un tout nouveau système d'eau potable. Les deux communautés sont aussi partenaires dans le traversier qui relie la côte nord à Trois-Pistoles et dans la gestion de la rivière à Saumon. Ce ne sont pas nécessairement toujours de gros projets, souligne Martin Dufour. On a mis des bornes de rechange pour les véhicules électriques. Ça a été fait avec eux. On a fait un petit parc ensemble. On a mis des toilettes sur le sentier du Moulin. On est constamment en partenariat et en recherche de partenariat. Ça amène des retombées économiques et ça crée des liens. Le chef Inou va même jusqu'à dire que Québec devrait financer ainsi des projets communs pour aider concrètement à la réconciliation avec les peuples autochtones. Ça marche, c'est une belle collaboration. Quand on a du plaisir à faire quelque chose ensemble, on a le goût de faire d'autres choses, selon André Desrosiers. Le maire des Escoumins ne le cache pas. Sa communauté profite du fait qu'Essipit, en tant que Première Nation, a accès à des contacts et à des enveloppes financières qui ne lui sont pas accessibles. Il donne l'exemple de la réfection de la rue du Quai, qui mène au traversier. Ni l'une ni l'autre des communautés ne pouvaient la financer. Mais grâce à un programme destiné aux Premières Nations, Essipit est allé chercher 400 000 $ pour le projet. Ensuite, Martin et moi, on est allés à Québec et on est allés chercher l'argent qui manquait, raconte le maire André Desrosiers. On a été capable de refaire cette rue-là sans que ça coûte une scène, ni à Essipit, ni à notre population. Les projets sont maintenant vus de façon complémentaire. Le terrain de baseball est situé à Essipit, celui de soccer aux Escoumins. On ne peut pas refaire le passé, philosophe André Desrosiers. Mais on peut s'en servir pour s'assurer que ça ne se reproduise pas, des tensions comme ça. Le secret, c'est la communication. On n'est pas toujours d'accord sur nos positions respectives. Mais quand on est capable de se parler, on finit toujours par se comprendre. Martin Dufour, lui, ne tient rien pour acquis. Il y a un climat de confiance qui s'est établi, mais je reste constamment à l'affût parce que je considère qu'il est fragile, dit le chef Inou. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose est fragile? On lui fait attention, on l'entoure, on s'en occupe. C'est comme ça que je vois la relation qu'on a avec les Escoumins. Il faut s'en occuper. Il faut qu'elle persiste dans le temps. C'est comme ça qu'on va donner un meilleur avenir à nos enfants. Martin Dufour, le grand chef d'Essipit, a été technicien forestier ainsi que pilote de croisière et guide naturaliste. Ancien membre du conseil de bande d'Essipit, il est élu chef pour la première fois en 2012. Il est reconduit dans ses fonctions lors des élections de 2016, de 2020 et de 2024. André Desrosiers, le maire des Escoumins, a été contrôleur de trafic maritime pendant 34 ans pour la garde côtière canadienne. Conseiller municipal des Escoumins entre 2001 et 2013. Maire des Escoumins depuis 2013. S'est présenté aux élections provinciales pour l'ADQ en 2007 et pour la CAQ en 2018. C'était La Zamboni de la réconciliation, un texte de Philippe Mercure paru le 1er octobre 2024 dans La Presse.
Quand les ouragans détruisent la vérité, un texte d'Alexandre Sirois paru le 18 octobre 2024 dans La Presse. Parce que tout ce qui se passe au sud de la frontière finit par avoir des répercussions chez nous. Je crois que le gouvernement pourrait changer la trajectoire des ouragans pour sauver les citoyens. D'autres le font, mais ils ne veulent pas le faire. Il doit y avoir une raison. C'est peut-être parce qu'il y a une élection bientôt. C'est Mila Blash qui dit de telles énormités. Une Floridienne rencontrée à Venice Beach par la journaliste de La Presse, Marie-Ève Moras, après le passage de l'ouragan Milton. Je précise que ma collègue n'a pas eu à chercher très longtemps pour trouver une adepte de cette théorie du complot, colportée notamment par la politicienne républicaine Marjorie Taylor Greene. Quand on est arrivé sur la plage, la première personne à qui j'ai parlé, c'était elle, m'a raconté Marie-Ève. Ce n'est pas tout. Quelques instants plus tard, au même endroit, un homme lui a dit être persuadé que les autres pays ont orienté Milton vers la Floride. C'est dément, mais pas si surprenant. Les complotistes évoquent souvent un nouvel ordre mondial qui menacerait la souveraineté des nations. Je me demande si ces Floridiens pensent que ce sont des hommes lézards qui contrôlent la machine à fabriquer des ouragans. Ne riez pas. Il y a une dizaine d'années, des sondeurs ont révélé que 4 % des Américains étaient d'avis que la politique américaine est contrôlée par des reptiliens. Le même sondage nous apprenait aussi que 13 % des Américains décrivaient Barack Obama comme l'antéchrist. Parallèlement, 11 % des Américains pensaient que leur gouvernement était responsable des attentats du 11 septembre 2001. Ça vous décourage? Attendez de lire la suite. L'attrait des Américains pour les théories du complot et autres fausses croyances ne date donc pas d'hier. En fait, il serait pratiquement inscrit dans l'ADN du peuple américain, selon le journaliste Kurt Anderson, qui a publié un essai à ce sujet un an après l'élection de Donald Trump, intitulé « Fantasyland ». L'expérience américaine, incarnation originelle de la grande idée des Lumières de la liberté intellectuelle, chaque individu étant libre de croire ce qu'il veut, a connu des métastases incontrôlables. Dès le départ, notre ultra-individualisme a été associé à des rêves épiques, parfois à des fantasmes épiques, chaque Américain étant l'un des élus de Dieu, construisant une utopie sur mesure, chacun d'entre nous étant libre de se réinventer par l'imagination et la volonté. En Amérique, les parties les plus excitantes de l'idée des Lumières ont submergé les parties les plus sobres, rationnelles et empiriques, a-t-il écrit. Le verre était dans la pomme, donc. Et les dernières décennies ont fourni à ce verre les conditions gagnantes pour qu'il puisse dévorer ce fruit jusqu'au trognon. L'apparition de l'Internet et le développement des réseaux sociaux ont offert aux mensonges, lubies et autres fabulations un rayonnement jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ils en ont accéléré la diffusion. Et puis, Donald Trump s'est lancé en politique. Est-elle le joueur de flûte qui attire les enfants avec sa musique dans le conte des frères Grimm? Le milliardaire devenu politicien a ensorcelé une partie des républicains qui ont sauté à pieds joints dans la réalité alternative qu'il a créée. Peu importe ce que ce divorce avec la réalité peut avoir comme conséquence, il est tentant de s'imaginer, quand on entend parler de ce combat entre mensonge et vérité, ainsi que de la portée de la désinformation et des théories du complot, qu'il ne s'agit que de débats théoriques pour lesquels personne ne se bat dans les autobus, si vous me permettez d'emprunter cette expression à François Legault. Mais la situation aux États-Unis, après le passage des ouragans Helene et Milton, nous prouve le contraire. Non seulement des sinistrés refusent l'aide du gouvernement, mais certains menacent les employés fédéraux déployés sur le terrain, ceux de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, FEMA. Ces menaces ont entravé les opérations de secours en Caroline du Nord, a rapporté le Washington Post. Car certains responsables de ces opérations ont dû être évacués des zones où ils travaillaient. Et ces menaces ont été alimentées par les mensonges au sujet du rôle du gouvernement américain. Ce dernier, selon Donald Trump, ferait tout son possible pour ne pas aider les habitants des régions républicaines. Le candidat républicain a aussi faussement allégué que l'administration fédérale vole l'argent des sinistrés pour l'offrir aux immigrants illégaux. Je le cite, parce qu'il est le chef de cet orchestre qui sonne faux. Il est cependant loin d'être le seul à se comporter en charlatan dans ce plus récent épisode du délire de l'Empire américain. Ce qui semble nouveau, à la suite des ouragans de ce mois-ci, c'est que les personnes qui mentent n'essaient même pas de cacher la provenance de leur bullshit. De même, ceux qui partagent les mensonges sont heureux d'admettre qu'ils ne se soucient pas de savoir si ce qu'ils avancent est réel ou non, a récemment écrit le journaliste Charlie Warzel dans The Atlantic. Cette attitude fut d'ailleurs celle du candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, pressé de questions en septembre 2024 sur le fait qu'il n'existe aucune preuve que des migrants haïtiens ont mangé des animaux domestiques en Ohio. Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent attention à la souffrance du peuple américain, c'est ce que je vais faire, a-t-il répliqué. Tout ça démontre que la situation politique et sociale chez nos voisins, déjà préoccupante, est en train de se détériorer encore davantage. Le titre de l'article de Charlie Warzel résume bien l'état de la situation. « Je ne sais plus comment expliquer à quel point c'est grave. Il nous reste à espérer, au moment où des élections se profilent ici aussi à l'horizon, que ce délire ne soit pas trop contagieux. » C'était « Quand les ouragans détruisent la vérité », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 18 octobre 2024 dans la presse.
Beaucoup de livres neufs dans les écoles, trop peu de bibliothécaires. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir. Qu'est-ce qui fait une bonne bibliothèque d'école? Depuis 2019, le gouvernement Legault travaille activement à faire entrer plus de livres dans le système scolaire. Il a d'abord financé à partir de 2019 l'achat de 2 livres de plus par année par élève, puis ajouté 300 $ par enseignant pour regarnir aussi les classes. Bonne nouvelle, ces mesures fonctionnent. Elles sont très utilisées. L'autre versant, c'est super les livres, mais on manque de gens pour les traiter, rappelle Ariane Régnier, présidente de l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires, APSDS. Il n'y a encore aucune bibliothécaire dans 18 des centres de services et commissions scolaires sur les 72 du Québec. C'est littéralement 1 sur 4. On doit rappeler qu'une bibliothèque scolaire, ce n'est pas fait que de livres, poursuit Mme Régnier en entrevue. Notre gouvernement reconnaît toute l'importance des bibliothèques scolaires et principalement de la lecture chez nos enfants, indique Antoine de la Durantais, attaché de presse du ministre de l'Éducation Bernard Drainville. La lecture est essentielle pour favoriser l'apprentissage et la réussite scolaire chez les élèves. Ça passe notamment par un meilleur soutien aux bibliothèques scolaires et un meilleur accès aux livres. Pour l'année 2024-2025, continue M. de la Durantais, Québec investit près de 40 millions dans les écoles pour le fonctionnement des bibliothèques scolaires et l'achat de livres. Là-dessus, 27,9 millions sont alloués aux seules acquisitions de livres, comme précisé par le ministère de l'Éducation, ce qui laisse 11,7 millions pour tous les autres besoins que pourraient avoir les bibliothèques des 2742 écoles publiques du Québec et qui passent exclusivement par la mesure d'embauche de nouvelles bibliothécaires. Les bibliothèques scolaires ne sont pas que des endroits où ranger les livres, s'exclame Ariane Régnier. C'est des services basés sur la collaboration. C'est pas qu'un local, c'est un environnement de vie. Et tous ces nouveaux livres ne se rendent pas seuls sur les étagères des bibliothèques scolaires. Il faut les traiter, souligne la présidente de l'APSDS. Selon l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, cela veut dire cataloguer les livres, les indexer, les relier, les mettre sur les rayons. Et, pour le monde scolaire, idéalement, en analyser le contenu, s'assurer qu'il convient aux jeunes lecteurs. C'est un travail conjoint entre les bibliothécaires, les enseignantes et les techniciennes en documentation, indique Mme Régnier. Et même lors de dons de livres, ajoute-t-elle, ceux-ci doivent être triés. On doit regarder le cycle scolaire visé, les besoins des enseignantes et du développement de l'enfant. Si la grande majorité des écoles secondaires ont des techniciens en documentation qui s'occupent de leur bibliothèque, elles sont trop rares aux primaires, explique la présidente. De plus, 18 centres de services sur 72 n'ont pas du tout de bibliothécaire, d'après les données de l'APSDS. Selon le ministère de l'Éducation, 157 bibliothécaires qualifiés détenant une maîtrise en sciences de l'information travaillent à temps plein dans le système scolaire au Québec. En 2005, le plan d'action sur la lecture à l'école visait 317 bibliothécaires à temps plein pour 2017. Il manque encore, pour cet objectif périmé, 160 bibliothécaires. Y aurait-il moyen de faire autrement? Combien de bibliothèques scolaires au Québec s'appuient seulement sur le travail bénévole d'enseignants ou de parents? Le ministère ne dispose pas de cette information, a répondu Brian Saint-Louis du service des relations médias ministérielles. La mesure 15103 et ses deux volets. Le ministère de l'Éducation démontre depuis 2005, à travers des gouvernements différents, une réelle volonté d'investir dans les bibliothèques scolaires par l'achat de livres, note encore Ariane Régnier. La mesure 15103 est un récent ajout. Annoncée en 2019 par Jean-François Roberge, alors ministre de l'Éducation, l'enveloppe permet aux bibliothèques scolaires d'acheter environ 2 livres par élève par année. Le ministère fournit 66%, le reste est assumé par les centres de services scolaires. En 2022-2023, 22 millions au total étaient ainsi disponibles. Or, les rapports annuels font état d'achats de 24,1 millions cette année-là, comme l'indique le ministère. Il est fort possible que la mesure ait incité les commissions scolaires à acheter plus de livres que ce que le budget permet, interprète Mme Régnier. Le volet 2 de la mesure offre 11,6 millions, $300 par enseignant, pour les livres en classe. Instaurée en 2023, l'initiative est encore trop récente pour qu'on puisse juger son effet. Sur le terrain, on voit et prédit qu'elle fonctionne bien. Au total, si l'on se fie à la dernière année financière, quelque 35,7 millions de dollars pour l'achat de bouquins, livres numériques, revues pour les élèves. Évaluons à la grosse louche. Selon le palmarès Gaspard, le prix moyen du livre jeunesse au Québec en 2023 est de $16,68. On peut imaginer ainsi, très grosso modo, un ajout de près de 2 millions de documents pour les écoles en 2024. C'est beaucoup de documents à traiter. Rappelons que l'APSDS signait hier une lettre ouverte dans Le Devoir. L'association y dénonce, entre autres, le manque d'écoute du ministère de l'Éducation envers les professionnels des bibliothèques, surtout après l'abandon brusque du projet de catalogue national. C'était « Beaucoup de livres neufs dans les écoles, trop peu de bibliothécaires », un texte de Catherine Lalonde paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir.